Radio Panique.
Pandémique.
Rassure l'auditeur.
Après les guerres nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
Radio Pandémique tous ensemble.
On va s'intéresser aux potentielles causes de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde, et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie, et on va voir ses conséquences sur l'humanité.
Comment les gouvernements pourraient réagir,
comment les personnes comme vous et moi seraient affectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
C'est Radio Pandémique, avec un K.
Ah oui, Radio Pandémique,
ouais. J'aime bien.
Bonjour Émilie, j'espère que tu vas bien. Ici au Maroc, c'est comme la Belgique, c'est-à-dire que les cafés, les restaurants, y compris les réunions de X nombre de personnes, je ne sais plus combien, est interdite. Maintenant, ils ont passé à une phase supérieure, c'est-à-dire qu'à partir de 18 heures, les gens ne peuvent plus sortir sans aucune raison. Bon, ici au Maroc, il y a beaucoup moins de cas du coronavirus qu'en Europe. Alors non, ils prennent toutes les mesures que, pour essayer de freiner ce virus. Voilà. Donc, c'est vrai que pas mal d'Européens sont bloqués ici au Maroc parce qu'ils ont annoncé un jour avant... Enfin, je crois qu'ils avaient prévenu le vendredi pour dire que le samedi, il n'y avait plus d'avions. Donc, beaucoup trop d'Européens ont été pris de court et sont bloqués ici au Maroc. Donc, on ne sait pas quand on pourra, parce que c'est également mon cas, quand on pourra revenir en Belgique. Voilà, effectivement, j'ai aussi une pensée pour les SDF en Belgique, mais au Maroc aussi, parce qu'il y a une association qui s'appelle l'association Joud, qui s'occupe des SDF dans plusieurs villes du Maroc, telles que Marrakech, Casablanca ou Rabat. Et c'est vrai que tous les services sociaux, un peu comme les associations en Belgique, malheureusement ne peuvent plus vraiment s'occuper comme ils aimeraient le faire des SDF. Ben, je vous embrasse tous, gros bisous à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Faites très attention à vous.
Allô, allô, salut Inès, c'est Leslie.
Oui, ça va?
Est-ce que tu m'entends bien par chez toi?
On va mal, ouais.
En tout cas, ça fait plaisir d'entendre ta voix, une voix qu'on entendait sur Radio Panique il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on n'entend plus parce qu'après un petit détour en Ardèche, tu es au Sénégal. Alors comment ça se passe au Sénégal en ce moment pour toi? Tu es à Dakar. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la situation?
Oui, alors moi je suis professeure des écoles à Dakar, donc là ça fait 2 semaines que les écoles sont fermées, toutes les écoles du pays, donc je suis obligée de faire du travail à la maison comme vous le faites en Europe, mais je crois que c'est un des seuls domaines qui est vraiment fermé au public, enfin, qui a été fermé le plus tôt en tout cas, puisque les gens ne sont pas du tout obligés de se confiner pour l'instant. Il y a beaucoup de gens dans la rue, les précautions de type masque, gel hydroalcoolique apparaissent de plus en plus, des limites dans les pharmacies, voilà, des petites choses comme ça. Les marchés ont fermé la semaine dernière. De proximité et de rencontres des conditions hygiéniques qui sont vraiment très favorables à la propagation de n'importe quel virus. Donc, encore plus de celui-là, j'imagine. Et par contre, la grande nouveauté, c'est que depuis la semaine dernière, le président Macky Sall a fait une allocution à la télévision pour annoncer qu'il y aurait un couvre-feu de 20h à 6h. Donc là, actuellement, il est presque 20h. Les gens sont en train de rentrer chez eux. Et dans quelques minutes, il n'y aura absolument plus personne dans la rue, comme si c'était 1h du matin, quoi, ou 3h du matin.
Et comme si le virus ne se propageait que la nuit, quoi, que entre 20h et 6h du matin. OK.
Mais du coup, je constate en plus que plus on bouche quelque chose et plus ça ressort d'un côté. Donc, ça veut dire qu'entre 18h et 20h, il y a des rassemblements de population. Enfin, les gens en profitent pour sortir, en fait. Donc, ça fait encore plus de rassemblements. Voilà, donc c'est super.
Parce que pour être sûr, là, il n'y a aucune mesure stricte mise en place, comme par exemple respecter une distance de 1 mètre, 1,50 m de sécurité.
Non, c'est pas du tout obligatoire. C'est fortement conseillé par le président et par les institutions de santé. Mais il y a aussi, donc avec ce couvre-feu, le président a mis en place l'état d'urgence, donc qui donne plus de pouvoir, notamment à la police et aux forces de l'ordre. Donc on a déjà vu des vidéos de débordements par rapport à ça, des gens qui se font taper dans la rue le soir, voilà, sûrement parce qu'ils ne respectent pas le couvre-feu. Donc c'est l'état d'urgence dans le pays, mais pas encore de mesures hyper strictes en journée, disons.
Et au niveau des gens, de la population, est-ce que ça parle beaucoup de ça dans les rues? Est-ce que ça en parle beaucoup aussi dans les médias, ou c'est encore un truc qui est loin?
Oui, c'est dans les médias depuis un bout de temps, hein, à peu près. Je veux dire, les gens ne parlent que de ça. Et on entend ce mot dans la rue à tout bout de champ, notamment quand moi, blanche, je marche dans la rue. J'ai souvent entendu le mot coronavirus à mon approche, donc c'est quelque chose qui est hyper présent, ouais. C'est vrai, mais les gens ne prennent pas forcément des mesures du coup concrètes.
Ça veut dire que tout le monde continue à aller travailler, à part, tu disais, les écoles et certains lieux qui sont fermés, mais sinon la vie fonctionne un peu normalement, on n'est pas arrêté en tout cas.
À peu près, oui. Il y a quelques petites choses qui changent. Alors, il n'y a plus le droit de vendre du pain dans les boutiques, qui sont des petits points. Il y a des boutiques, en fait, à peu près dans chaque quartier, plusieurs dans chaque rue. C'est un peu comme des épiceries turques qu'on a chez nous, quoi. Mais là, il y en a vraiment partout. Et d'habitude, ils vendent du pain. Et là, il est interdit aux boulangeries de leur vendre du pain. Donc, ce qui fait que j'ai lu dans les journaux qu'il y avait des émeutes dans les boulangeries pour acheter du pain. Enfin, tout, chaque mesure a un peu des revers étranges, je trouve, pour l'instant.
Mmh. Et tu parlais des masques, des gels hydroalcooliques. Est-ce que c'est très utilisé? Est-ce que tu vois des gens dans la rue avec, ou ça reste assez, assez anecdotique?
Oui, je vois des gens dans la rue avec. Et dès qu'on rentre dans n'importe quel... pas les boutiques dont je t'ai parlé, mais n'importe quel autre magasin, il y a un gardien qui nous met du gel hydroalcoolique sur les mains. Et il y a pas mal de gens avec des masques. Ouais.
Inès, ici à Bruxelles, on vient ce soir de nous annoncer que les mesures très restrictives de notre côté étaient prolongées de 3 semaines, en fait. Toi, comment tu vois l'avenir ici à Dakar? Est-ce que tu crois qu'il va y avoir, des mesures prises, et au fur et à mesure que les cas se présentent? Parce qu'on parle en fait rarement là, du Sénégal en Europe, mais c'est pas comme s'il y avait eu comme si ça n'existait pas. Il y a eu déjà quand même presque une centaine de cas déclarés, je crois.
Oui. Alors, il y a 119 cas à ce jour. Il y en avait une vingtaine au début du mois, je crois, enfin le 15 mars. Donc, ça a vite augmenté. Moi, je suis un peu partagée, en fait. J'aurais tendance à être assez pessimiste parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont des métiers très précaires dans la rue, que les conditions d'hygiène dans beaucoup d'endroits sont pas du tout propices à confiner le virus, en fait. Et que si jamais il arrive que ça se propage comme ça s'est propagé en Europe, j'ai peur que ce soit vraiment catastrophique, parce qu'en plus les hôpitaux sont un peu considérés comme des mouroirs déjà de façon habituelle. Donc j'ose pas trop imaginer ce que ça donnerait avec ce genre de maladie. En même temps, j'ai une amie qui m'a parlé hier de plusieurs sources qui diraient que l'Afrique est pleine de ressources pour gérer ce type de problème, puisqu'elle a déjà eu à faire face à des grandes épidémies comme Ebola, et qu'ils ont réussi à préserver et à pas que ça se diffuse. Donc peut-être qu'ils ont les moyens de faire face à ça. Pour l'instant, les 119 personnes qui ont été contaminées, il y en a 8 qui sont, 11 qui sont guéries, et les autres sont gardés dans des hôtels. Et donc ils disent qu'ils guérissent, et voilà. Mais je ne sais pas, j'ai vraiment du mal à savoir comment ça va évoluer. Mais le pire scénario, ça serait vraiment que ça se développe grandement, sachant qu'il y a un peu des cas dans chaque région du Sénégal, pas seulement à Dakar.
Merci Inès, on va te laisser à tes occupations et à ce couvre-feu, et puis peut-être que tu commences ton week-end. Peut-être, oui, une dernière question pour toi, comment ça se passe du coup en tant que professeur des écoles? Est-ce que tu donnes cours par internet? Est-ce qu'il y a des petits regroupements un peu plus informels? Comment tu continues ton travail, tes activités, tout ça?
Oui, alors moi, je suis professeure dans une école française, homologuée AEFE. Et donc, j'ai la chance d'avoir un public, j'ai un public qui est assez aisé, qui sont pour la plupart des Libanais sénégalais, et donc qui ont accès à Internet et des moyens chez eux quand même raisonnables. Donc, je leur fais cours par correspondance. Je prépare chaque jour un programme sur un Padlet et qu'ils doivent suivre chez eux avec des choses à imprimer, etc. Voilà. Mais je pense que la plupart des écoles sénégalaises ici ont complètement arrêté toutes sortes d'éducation, puisque la plupart n'ont ni Internet ni d'ordinateur. Donc, ça devient complètement impossible de préserver la continuité pédagogique. Voilà.
Voilà. Et on va continuer à te faire travailler en nous aidant à réaliser cette émission Radio Pandémique épisode 8. Est-ce que tu nous proposerais un titre musical pour aller après cette interview? C'est quoi ton morceau du moment?
Ah, mon tube du moment.
Ouais.
Une chanson sénégalaise que j'aime bien, c'est... Ah oui, alors, ça s'appelle Takma.
Takma, ok. Eh ben, on écoute ça. Tu vas nous envoyer ça. Eh bien, merci beaucoup, Inès, et surtout, porte-toi bien.
Oui, merci à vous aussi, surtout. À bientôt.
On the beat. Sabane kubakan, maisha jabadu den bun maisha gini ne wanzo. Moi, je m'appelle Anna, je suis permanent au JOC Bruxelles. C'est une organisation de jeunesse qui intervient depuis maintenant près de 70 ans à l'échelle de l'ensemble de la Belgique. On est un organe constitutif du mouvement ouvrier chrétien. Je suis également militant de la Nouvelle Voie Anticoloniale, un groupe antiraciste décolonial. Cette initiative a émergé en compagnie d'une autre militante de la Nouvelle Voie Anticoloniale qui se nomme Nada. Comme Nada est originaire d'Italie, elle a pu observer au quotidien l'évolution et la propagation de ce phénomène social qu'est le coronavirus et tout le désastre et le chaos social qui lui est associé. Donc nous, pour éviter qu'un chaos équivalent nous tombe dessus sans qu'on soit préparé, sans qu'il y ait quelconque structure qui puisse coordonner une forme de solidarité organique à l'échelle des quartiers bruxellois, on a décidé de lancer cette initiative. Donc dans un premier temps, on a défini toute une série de fonctions, confection de colis alimentaires, distribution de colis alimentaires, distribution de produits sanitaires, soutien à la petite enfance, etc., etc. On a réussi à obtenir l'adhésion de 200 bénévoles. Et à partir de ces 200 bénévoles, on a constitué une base suffisante que pour coordonner toute une série de groupes sur Facebook à l'échelle de chacune des communes du périmètre géographique bruxellois. Donc moi, j'étais chargé de la moitié des communes, Nada était chargée de l'autre moitié. Au départ, on essayait de stimuler un petit peu les dynamiques de quartier en proposant dans un premier temps une distribution générale d'un tract qui reprenait un message somme toute assez clair. Vous avez besoin d'aide, voici un numéro de téléphone. Vous avez une demande particulière, voici un numéro de téléphone. Vous avez besoin d'un soutien psychologique, voici un numéro de téléphone. Donc un bénévole inscrit son numéro de téléphone sur le tract, va distribuer le tract dans sa rue ou dans son quartier plus largement. Et par la suite, il agrège l'ensemble des demandes et les retranscrit sur le groupe Facebook. Donc, groupe Facebook Solidarité Anderlecht, groupe Facebook Solidarité Molenbeek, groupe Facebook Solidarité Uiterbeek. Et en fonction des possibilités d'activité et d'intervention de l'ensemble des bénévoles, la demande sera résolue. C'est comme ça que, dans un premier temps, on a réussi à agréger pas mal de demandes de courses, des demandes de sans-papiers qui étaient dans le besoin de colis alimentaires de journaliers, des demandes également de soutien à la petite enfance. Donc, on a organisé des vidéoconférences avec des enseignants et des éducateurs qui proposaient des activités aux enfants pendant que les parents étaient en télétravail, etc. Donc, il y a toute une série de choses qui ont été mises en place par les bénévoles. Donc, progressivement, les différents groupes ont pris de plus en plus de volume. Et donc, les demandes ont également pris de plus en plus de volume. Ce que moi et Nada, on espérait, c'est qu'on soit pas non plus à l'initiative de l'ensemble des opérations de réponse aux demandes. Parce qu'au départ, comme les gens savaient pas trop comment, c'est vrai qu'on était vraiment très présents, et voire un petit peu trop. Parce que notre objectif, c'était quand même de permettre l'autonomisation des dynamiques de solidarité organique par quartier. Ça, c'était vraiment notre objectif initial, constituer des groupes sur l'ensemble du périmètre géographique bruxellois pour que ces groupes puissent s'autonomiser par la suite par quartier. Actuellement, c'est le cas, donc on aura réussi à ce niveau-là. Ce qui nous a posé beaucoup de difficultés au départ, c'est que comme nous n'étions que deux, on a dû construire des points d'administration par commune, en essayant de trouver des locaux pour organiser des permanences de réception des colis, de distribution. Et donc, on est entré en contact avec toute une série d'acteurs et d'actrices que nous avions en commun. Ces acteurs et ces actrices ont décidé de mettre à disposition leurs locaux, notamment pour une collecte à Forêt, au niveau de la rue des Alliés, 273, qui est conduit par Eugénie Fano, qui est une militante proche du groupe de soutien à Ali Arras, qui donc, elle, soutient une permanence quotidienne du lundi au vendredi, de 14h à 16h. Et également la Belgium Kitchen, qui propose logement, repas, etc., etc. Donc, à partir de ces points d'administration physique qui ont commencé à apparaître progressivement, il y a eu une autonomisation réelle des différentes dynamiques de solidarité organique qui sont constituées.
Pour bien comprendre, vous avez vraiment été une espèce de soutien logistique, quoi, de coordination, d'initiatives qui existaient ou qui se sont formées de par votre proposition. Et maintenant, vous vous retirez un peu plus pour que les dynamiques locales continuent sur leur lancée.
C'est ça. Et nous, de notre côté, on s'est activés dans nos périmètres d'intervention géographique propres. Moi, j'habite à Anderlecht. Et à Anderlecht, j'ai mis en place des choses. Nada, qui habite à Saint-Josse, a également mis en place des choses.
Pour se mettre en contact avec les bénévoles, du coup, c'est Facebook, c'est Solidarité et puis le nom de la commune derrière, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Okay.
Soit Facebook, soit WhatsApp. On est aussi actifs sur WhatsApp, mais WhatsApp, c'est vraiment des comités qui sont beaucoup plus locaux, qui prennent une vingtaine, voire une trentaine de personnes au maximum, qui peuvent intervenir à l'échelle de certains quartiers. Par exemple, moi, j'ai constitué un groupe à l'échelle de mon quartier. Donc, on est une trentaine et on essaie d'intervenir au quotidien.
Du coup, c'est Facebook, WhatsApp. Et alors, où est-ce qu'on a accès à ce tract qui reprend le numéro de téléphone du bénévole et tout ça?
Moi, je l'ai distribué principalement sur Facebook. Et je l'ai également imprimé. Je l'ai imprimé et déposé dans certains endroits, notamment à Scarbeck, au niveau de la fac, FAC, qui également nous a proposé d'utiliser leur espace et leur local comme point de distribution et de stockage de colis alimentaires. Ils nous ont également proposé une camionnette pour faciliter la distribution à l'échelle de la commune scarbécoise. Donc, moi, ce que j'ai demandé aux gens sur les différents groupes, c'est que les tracts soient imprimés par les personnes et qu'ils soient distribués par la suite de façon très locale. Après, donc, a émergé une autre problématique, celle d'un rapport inique au confinement, une sorte de confinement à plusieurs vitesses, à laquelle on a essayé de répondre en proposant dans un premier temps une carte blanche qui reprenait toute une série de revendications, notamment portées par la coordination des sans-papiers, la voix des sans-papiers, etc. Que serais-je sans toi dans cette carte blanche? On a exigé la mise à disposition des mouvements de solidarité locaux de points physiques. On a également exigé une coordination régionale connectée à un cadastre des besoins régionaux, en termes de nourriture, de matériel, etc. Un accès sans limitation temporelle de locaux pour les populations les plus vulnérables. La facilitation des projets d'auto-organisation de ces populations les plus vulnérables. La réquisition des hôtels, églises, mosquées, écoles, etc. On a également demandé... parce que moi, ça me paraît fondamental que des phases de dépistage général soient organisées. Et on a reçu quelques réponses favorables de la part de certaines communes, notamment la commune de Etterbeek, qui, à la suite d'un arrêté de police, le 21 mars, a poussé à la réquisition de certains hôtels. Donc c'est déjà vraiment, vraiment... vraiment pas mal.
D'après ce que j'ai entendu, il y a effectivement un hôtel qui a été réquisitionné à Etterbeek et un hôtel à Forêt aussi, où il y a 40 places.
Ouais, tout à fait, à Forêt aussi. On a écrit la carte blanche et on a lancé une deuxième action, l'envoi d'un mail qu'on a envoyé à l'ensemble des bourgmestres où on exigeait qu'il y ait généralisation de l'arrêté de police porté par la commune d'Etterbeek à l'échelle de l'ensemble des communes. Et effectivement, on a reçu une réponse favorable de la part du bourgmestre de Forêt, Stéphane Roberti. Il n'est pas question non plus de participer d'une propagation de la pandémie et d'alimenter la vulnérabilité de ces personnes sous prétexte qu'on tenterait de les soutenir. Je veux dire, on peut proposer un confinement général à l'échelle bruxelloise, mais l'intérêt, c'est pas non plus de réquisitionner un seul bâtiment et de mettre 300, 400 personnes dedans. Non, il faut que des principes de dignité soient respectés.
Oui, et notamment le fait que ce ne soient pas des lieux complètement ouverts où ce ne soit pas possible de mettre en place... Par exemple, cette histoire de distanciation sociale, c'est en quoi les hôtels sont plus intéressants dans le fait de pouvoir avoir un espace propre chacun. J'avais une question, c'était de savoir, bon, évidemment la question que tout le monde se pose, de quelles mesures de protection vous disposez, un peu quel protocole vous avez mis en place pour vous protéger, protéger les personnes avec qui vous êtes en contact.
Donc on a un document reprenant toute une série de recommandations qui ont été définies par... des infirmiers, des infirmières, une personne proche du SPF. Et dans ce document de recommandation, on essaie de respecter au maximum des mesures pour empêcher les propagations de la pandémie lors des distributions. On priorise la confection des colis alimentaires chez soi.
C'est ça, du coup chez soi et puis l'amener sur place.
C'est ça, sur place, c'est simplement des espaces de stockage qui par la suite vont être redistribués. Ce qu'on a aussi, et ça je ne l'ai pas dit au départ, on a défini plusieurs pôles qui reprend toute une série de responsables. On a des responsables de communication, des responsables de distribution, des responsables de récupération, etc. Et c'est ces mêmes responsables qui sont notamment chargés de la distribution à l'échelle de l'ensemble du périmètre bruxellois, etc.
Mais juste pour comprendre, du coup, eux, ils sont sur l'ensemble de Bruxelles ou uniquement par quartier ?
L'ensemble de Bruxelles. C'est des petits groupes d'une dizaine de personnes qui, généralement, ont une expérience effective dans les réseaux de solidarité, qui ont travaillé notamment aux côtés d'associations de récupération, dans les réseaux de solidarité aux sans-abri, aux migrants, aux migrantes, etc. Et qui donc ont internalisé cette pratique sociale dans leur quotidien. Notamment une femme qui s'appelle Hanan, et j'aimerais beaucoup remercier, qui nous apporte au quotidien toute son expérience et qui participe grandement à la confection des colis alimentaires à l'échelle de tout Bruxelles. Donc Hanan, merci.
Alors la question c'était aussi, donc il y a d'une part les demandes auxquelles vous répondez, et puis il y a des lieux physiques où il est possible d'amener du matériel. Donc, quels sont les besoins les plus importants ? Est-ce que toi, tu as une vue d'ensemble ou est-ce qu'il faut plutôt s'adresser dans son quartier aux lieux physiques pour leur demander quels sont les besoins qu'ils ont ?
Donc, les besoins principaux que moi, j'ai pu observer, c'est vraiment des besoins au niveau de la confection des colis alimentaires. Parce que comme les réseaux de récupération, les supermarchés ne sont plus en capacité de donner grand-chose puisque les stocks sont complètement saturés, donc, il y a des difficultés vraiment inhérentes à la possibilité de confection de colis alimentaires. Au niveau des produits sanitaires, non, de manière plus générale, ça va. Il y a aussi des exigences au niveau d'un soutien psychologique qui manque énormément. Logement. Je pense que c'est un impératif fondamental. Que ce qui est proposé actuellement, notamment l'ouverture journalière de la Porte de Lys du matin au soir, qui comprend 350 places, ne suffit pas et qu'il faut aller beaucoup plus loin pour que les recommandations et les consignes sanitaires soient respectées.
Et alors moi, j'ai une question que je pose toujours. C'est, on est tous conscients que la situation qui précède la crise n'était pas une situation enviable. Là, il y a toute une série de choses qui se mettent en place, aussi bien ce que toi tu décris de solidarité organique, mais aussi tout d'un coup on se rend compte que ce qui semblait impossible pour le gouvernement avant, tout d'un coup devient possible, comme les réquisitions d'hôtels. S'il fallait penser la suite, s'il fallait penser l'après-crise, est-ce qu'il y a des choses qui toi te semblent importantes, qui nous auraient été instruites par la crise ?
Je dirais que tout le monde n'est pas égal face à l'épidémie du coronavirus. Il y a un différentiel effectif dans l'exposition et dans la vulnérabilité au coronavirus. Des personnes ont les conditions matérielles pour travailler depuis chez elles en sécurité, tandis qu'un pan de la population continue au quotidien d'exercer une profession qui les rapproche de la mort, se rapproche de l'agent pathogène. Et donc cette surexposition à l'agent pathogène, elle installe une forme de vulnérabilité au risque qui n'est pas identique pour toutes les personnes. Ce qui explique notamment les différents taux de mortalité entre les pays et entre les individus. Et ce différentiel d'exposition est fondamentalement lié à des logiques de domination en fonction notamment de la matrice raciale, la matrice genrée, et qu'il faudra nécessairement briser si on veut un jour ou l'autre aboutir à universalité inclusive et universalité effective.
Chacun son fléau. Moi, c'est un délire, hein, c'est bien. Chacun son fléau. Je n'ai aucune frontière, le mode est en... Chacun son fléau. Épidémie, terre, feu, tremblement. Chacun son fléau. Épidémie, terre. Je n'ai aucune frontière, le mode est en moi. Nouveau virus à la mode. Je crée des modèles à la chaîne. Pas demander à la Chine ce que je leur ai fait à l'ancienne. Des terres pendant les descentes, je marche avec la faucheuse. Je suis un enfant du labo, mais pas reconnu par le sport. Pas assez de matière pour avoir du cœur. Parasite, donc tout le monde y passe. Sans avance sur Ebola, la masque qui piclage. Des camions qui grave à du 10 000 cash. Les médias font grimper mon buzz. J'ai ni foi ni loi, ni femme et enfant. On a juste, je suis déjà chez toi. Va faire un check-up, t'as pas l'air en forme. Chacun son fléau. Épidémie. Chacun son fléau, épidémie, je n'ai aucune frontière, le monde est à moi.
Tu es silencieux, je méfie de moi. J'augmente le thermostat, je mets à gigoter. Gigot. Sur mon chemin, je laisse rien, juste aller ma rage. J'écarte les membres, vénère leur corps, rentre en silence jusqu'aux entrailles. Dans ma folie meurtrière, je fais aucune différence. J'assèche les gorges, les lacs et les mers, des genoux des vieux, des hommes ou des bêtes, des riches ou des pauvres.
Pour eux, je n'ai aucune limite. Réchauffement, ils militent. Fléau grandissant, ils s'irritent. Ils militent. Ils s'irritent. Ils militent.
Chacun son fléau, chacun son fléau, épidémie, terre. Je n'ai aucune frontière, le monde est à moi. Terre, violence, asia, asia. Chacun son fléau, chacun son fléau. Je n'ai aucune frontière, le monde est à
c'est
moi.
C'est la fin du monde, l'eau, c'est pas la fin du monde. L'ouragan, je suis arrogant, j'arrive, j'approche, après de la rive. Un beau rêve, fait un cauchemar. Le ciel devient noir, noir, sombre comme moi, je suis noir. Je vais voir rouge. Je suis dans le noir, noir, je le pouvoir. Un coup d'heure sur la terre, un trop de massacre. Je suis vénère, de voir Dieu vénère. Les hommes en cru, j'en colère sur Dieu. Oh my god, l'eau, c'est le code. Les hommes détruisent la terre pour de bip, plus de bip. C'est comme ta mère, respecte-la. Elle donne la vie, l'eau, c'est la vie de peu. Somme la poudre qui éclate sur les passages des doubles tubes. L'ouragan, Katrina, trois décès. Fais-moi sur les piranhas, pirates de mer. Tornade, l'ouragan, pirate de l'air. Je tourne en rond. Vous tourne en rond. Homme, femme, voiture, vous éclate. Ben, ben, vous jette à plus d'un kilomètre. Night Blow, je suis ton maître, à ton poisson, les cartons, l'ouragan, double tué.
Non, 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 mais qui est ce garçon de gang dans la pièce? Et ouais, c'est vrai que l'ambiance devient rougeâtre, parce que c'est Jack qui débarque dans la pièce. Et ouais, c'est vrai, c'est le rouge qui m'attire. Je bois de la rouge et c'est vrai que ça m'attire. Cherche qu'une bombe retardement, mon pote, finira par faire boum. Eh, hey, de face à s'inscrire, tu connais la rançon. Serre les blocs, tu connais le bloc chaud, plein milieu de la capitale. Les hommes en or, ouais, les hommes d'action. Tu connais le gang, tu connais le garçon. Je bois de red, ouais, chaud dans le garçon. Vente de bouée quotidien, garçon de gain, ouais, la main nous brassons. 0-8ème, que se refuse de penser malsaine. Wesh, et t'as ma belle, donne un vaccin contre la peur. C'est bientôt l'heure, voici le nouveau scandale. Du rap, ça part pour les pédales. Panique pas, c'est deuxième paraf, paraf. Après la guerre des étoiles, j'ai un faire classe et complication. Elle me répète que c'est compliqué. Faut que tu le vois pour que je te l'explique. Ouais, mon pote, t'as rien de compliqué. Vie de rue, vie de banlieue. Un jeune bac est africain. À la recherche, son putain de vie. À la recherche, du putain de vie.
Magique, génération bombe atomique. Plus magique, devient comme supersonique. Oh, c'est la zermie. Mes négros deviennent tous comme des zombies. Dors plus la nuit, y'a plus d'amis. Rien que des ennuis. Plus magique, pire qu'une épidémie. Sur la table, les flashs ont remplacé les ennemis. Mes ennemis, génération perdue, ils persistent. Une dernière flash,
l'overdose.
Overdose,
il a augmenté la dose.
Il a augmenté la dose, dose.
Bonjour, je m'appelle Robert, je fais partie de la CLAC. C'est le collectif de lutte anticarcérale. Eh ben, la CLAC lutte contre les prisons et aussi essaye de faire entendre la voix des personnes qui sont détenues dans les murs des prisons, et notamment via une émission de radio qui est diffusée sur Radio Panique une fois par mois. Et pendant cette période d'épidémie, on a reçu pas mal de témoignages qui venaient de l'intérieur des murs, qui nous expliquaient comment ça se passait, qui nous expliquaient la peur qu'il y avait dans les prisons, le sentiment d'abandon aussi qu'il y avait dans les prisons. Il faut savoir qu'il y a pas mal de mesures qui ont rendu la détention plus dure. Donc il y a eu la suppression des visites des familles, il y a une restriction au niveau des sorties dans la cour. Les détenus sont confinés souvent dans leurs cellules. Les activités de groupe ont été supprimées. Il y a aussi des repas qui ont été supprimés à cause du manque de personnel pénitentiaire ou à cause des radias qu'il y a eu sur les supermarchés au début de l'épidémie, et certains supermarchés approvisionnaient des prisons.
Vous êtes aussi en contact avec l'entourage des personnes en prison, et qu'est-ce qu'elles vous disent ?
Oui, bien sûr, on est en contact, notamment les témoignages de la prison de Jamioul, ça venait de proches de détenus. Et elle relaie forcément ce qui se passe à l'intérieur avec les moyens du bord, quoi. Et elles ont peur aussi, parce que aussi bien les détenus que les proches des détenus connaissent la situation des prisons. Donc, c'est-à-dire qu'une prison, c'est un peu une autoroute pour la propagation d'une épidémie. Donc, la Belgique connaît une surpopulation carcérale systémique. Donc, les détenus sont entassés les uns sur les autres dans des conditions d'hygiène déplorables, avec un accès très limité aux soins de santé, qui se limite souvent à un comprimé de paracétamol. Et dans les prisons, on compte aussi un nombre important de personnes qui ont des problèmes de santé et de personnes âgées. Ce qui fait qu'en fait, les prisons sont des lieux où l'épidémie en fait peut subitement augmenter, devenir très importante. Donc voilà, c'est forcément donc les détenus, les proches savent bien que ces conditions sont dramatiques et que ils risquent beaucoup à l'intérieur des prisons. Toutes les visites ont été supprimées et donc les détenus en échange ont eu 10 ou 20 euros de crédit d'appel téléphonique, mais c'est très peu forcément comparé à pour avoir quelqu'un en vrai. Il faut voir que toutes ces mesures restrictives font suite déjà à plusieurs mois de grève du personnel pénitentiaire qui avait déjà eu pour conséquence que les visites avaient été supprimées, les préaux avaient été supprimés, les douches ou les repas limités, etc. etc. quoi. Du coup, la pression, elle est énorme sur les personnes en prison depuis un moment. C'est devenu vraiment, vraiment invivable.
Il y a des associations qui ont l'habitude d'organiser des activités à l'intérieur de la prison. Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors ça a été supprimé. En fait, il n'y a que les avocats et les avocates qui peuvent encore voir les détenus. Mais il leur a été conseillé de limiter au maximum les contacts, quoi. Donc pour l'instant, les détenus sont vraiment quasiment complètement isolés. Parce que toutes les associations, toutes les activités de groupe qui étaient organisées à l'intérieur des prisons, les ateliers, etc., tout ça a été supprimé.
Face à ce constat, vous, c'est la claque, c'est quoi vos revendications ?
Eh bien, en fait, on demande de vider un maximum les prisons et on propose de vider les prisons en deux temps. Dans un premier temps, immédiatement, on peut faire sortir toutes les personnes qui ont un endroit où séjourner de manière sécurisée pendant le confinement et qui n'ont pas commis de violences sur autrui, que ce soit des violences physiques ou des violences psychologiques.
Quand tu dis de manière sécurisée, ça veut dire quoi ?
Eh ben, ça veut dire avoir un logement ou pouvoir vivre le confinement, on va dire comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire en pouvant être soigné, en pouvant avoir accès à l'alimentation et si possible en ayant un entourage. Voilà, donc il y a bien beaucoup de personnes en prison. Si elles sortent maintenant, elles n'auront pas de logement, elles se retrouveront à la rue par exemple. Et donc c'est ce genre de situation qu'on veut éviter. On pense aussi aux personnes qui ont été victimes ou cibles de personnes qui se retrouvent à l'heure actuelle derrière les barreaux. Et donc, dans un deuxième temps, on veut, sans attendre la fin de l'épidémie, donc on voudrait libérer le reste de la population carcérale, le temps de mettre en place justement des mesures d'accueil, c'est-à-dire notamment réquisitionner des logements vides pour pouvoir accueillir les personnes qui n'auraient pas de lieu où séjourner en dehors des murs des prisons, et aussi de mettre en place des mesures de protection pour les victimes et les cibles, notamment des mesures d'éloignement, ce genre de choses. Un sentiment d'avoir été abandonné par les autorités publiques dans les prisons et d'avoir été aussi oublié de, on va dire, la solidarité collective qui s'exprime à l'heure actuelle pendant cette période d'épidémie. Et donc voilà, donc les prisonniers sont rendus impuissants face au danger pour eux-mêmes, face au danger pour leurs proches qui sont à l'extérieur de la prison. Et donc c'est une situation qui est invivable à l'heure actuelle dans les prisons, quoi. Et voilà, c'est un peu cette situation, quoi. Donc la peur, le sentiment d'abandon. Et donc s'exprime une légitime révolte. À l'heure actuelle, toutes les prisons en Belgique connaissent des mouvements de contestation. Donc des détenus refusent de réintégrer leur cellule après la sortie dans le préau ou montent sur le toit pour réclamer des mesures dignes de ce nom en matière sanitaire face à l'épidémie.
Par rapport à ces révoltes, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises ou pas ?
Il faut savoir que dans les prisons, il est interdit pour les personnes incarcérées de s'organiser collectivement. Donc toute revendication collective, par exemple, ou de la tentative de créer un syndicat de détenus est réprimé et sanctionné. Donc, par exemple, à la prison de Jamioul, il y a effectivement des détenus qui ont refusé d'intégrer leurs cellules, qui ont demandé des masques et du gel hydroalcoolique. Ils ont obtenu du gel hydroalcoolique, mais toutes les personnes qui ont participé donc, à ce mouvement de contestation ont été sanctionnées et ont pris 10 jours de régime strict, comme on appelle ça. Donc voilà. Donc c'est très difficile pour les personnes à l'intérieur des prisons de s'organiser, parce que ça leur est interdit, et qui sont réprimés encore plus. Et donc c'est aussi aux personnes à l'extérieur des prisons de s'organiser pour faire entendre la voix des détenus, de faire en sorte que on prenne en charge la question carcérale au sérieux.
Par rapport à la solidarité des personnes, des citoyens, citoyennes, vous avez une demande particulière ?
Eh ben que on pense en fait que la solidarité elle devrait s'exprimer effectivement pour tout le monde, qu'il y a une solidarité actuellement assez fabuleuse qui s'exprime, mais que les détenus sont un peu les grands oubliés de cette solidarité. Et je pense que on pense que ça devrait s'exprimer, que personne devrait être exclu de cette solidarité, comme personne ne devrait être exclu de on va dire du droit à la santé.
Et comment comme personne, on peut concrétiser, on peut exprimer cette solidarité dont tu parles ?
Eh ben, on peut notamment écrire aux détenus. C'est vrai que c'est, pour l'instant, c'est compliqué. On est un peu tous confinés ce soir. On peut mettre des bâches, des banderoles à nos fenêtres. Voilà. On peut avoir des messages lors justement des moments où la population exprime son soutien à sa solidarité. On peut avoir des messages et des pensées pour les détenus.
Et le jour d'après, pour un Corona Reset, de la part d'un groupe de citoyens issus de la société civile et de la sphère culturelle, de citoyens actifs dans une volonté de changer ce monde pour que ce saut de paradigme tant espéré voie le jour, pour qu'après cette crise sanitaire mondiale, on ne nous réserve pas la même soupe devenue imbuvable.
Mesdames et messieurs les dirigeants, et tous ceux qui ont du pouvoir dans ce monde, chères citoyennes et chers citoyens.
Croyez-vous vraiment que nous vivrons comme avant, le jour d'après ? Croyez-vous vraiment que nous accepterons d'être encore ces serviles citoyens suiveurs d'un monde où l'on nous a vendu une croissance soi-disant infinie comme modèle de société, avec le capitalisme financier comme adjudant ? La consommation et les plaisirs immédiats comme corollaire, du pain et des jeux en somme, vieux comme l'histoire.
Croyez-vous vraiment qu'après avoir perdu certains de nos proches ou de nos concitoyens, nous aurons encore envie de cette vie où nous passons parfois plus de temps sur les routes pour aller travailler qu'auprès de nos enfants et nos proches ?
Croyez-vous vraiment que nous aurons encore envie de consommer cette nourriture bourrée d'additifs, de pesticides et autres molécules néfastes pour notre organisme, comme le montrent régulièrement les échantillons sanguins récoltés pour des analyses qui donnent froid dans le dos en termes de substances toxiques que nous n'aurions jamais dû ingérer ?
Croyez-vous vraiment que nous allons encore accepter cette destruction massive de notre environnement, notre maison et de la biodiversité ? Source de vie pour notre planète et pour nous.
Croyez-vous vraiment que nous accepterons encore ces écarts de richesse indécents, dignes des meilleurs livres de Zola, écrits à un autre siècle ?
Nous sommes certains gens de pouvoir, que vous pensez déjà à l'après. Comment rebondir ou activer notre résilience, pour utiliser un vocabulaire à la mode. Eh bien, c'est l'occasion rêvée pour rebondir autrement, pour faire mieux, pour nous créer un monde plus juste, où les relations humaines auront repris une place plus importante que celle des transactions financières et des dividendes à distribuer à une minorité. Un monde où le travail sera mieux réparti, afin que la moitié de l'humanité ne trime pas jusqu'à l'essoufflement, au détriment de sa qualité de vie, tandis que l'autre moitié vit dans la misère faute d'avoir accès à ce graal de boulot. Un monde qui respectera toute l'humanité, animaux et écosystèmes compris. Un monde où notre être pourra se construire autrement, avec ses dimensions multiples et non plus confinées à celles uniques de producteurs de richesses économiques.
Nous n'osons pas imaginer ce qui risque de se passer si nous demeurons figés sur des modèles économiques identiques, alors que les États vont dépenser des budgets colossaux pour gérer cette crise sanitaire. Quelles dettes pèseront sur nos pays si nous conservons les mêmes mécanismes économiques ? Allez-vous annuler ces dettes ? Celles des pays africains aussi ? Ou allez-vous à nouveau prôner l'austérité pour tout rembourser, alors que la crise de 2008 a démontré que cela ne fonctionne pas et que cela accentue encore la disparité sociale et les dangereux clivages au sein de nos sociétés ?
Il s'agit d'une demande apartisane et adogmatique. Une réflexion simple et basée sur le bon sens. Car pour résister, nous avons aussi besoin d'espérer. Et cet espoir ne réside pas en un retour vers l'état préexistant de nos sociétés, mais dans celui d'un saut de paradigme que tellement de philosophes, économistes, écologues, sociologues appellent de leurs vœux depuis des années. La crise sanitaire sera difficile à gérer, mais elle devra l'être au même titre que les crises sociales et environnementales.
Et si ce ressenti nous est venu après une semaine de confinement, imaginez seulement après quelques semaines.
Nous sommes convaincus qu'il faudra associer les citoyens et les acteurs de la société civile à ce changement, et ce, d'une manière inédite. Qu'il faudra imaginer avec eux, avec nous, les moyens d'en faire les réelles parties prenantes d'un processus large et dont l'ouverture se justifie par le caractère exceptionnel du moment. La démocratie, elle aussi, devra se réinventer.
Alors, ces semaines-là, mettez-les à profit pour nous préparer un autre monde. C'est le moment et c'est absolument nécessaire. Il y a des rendez-vous avec l'histoire où il faut le courage de prendre de grandes décisions. À bon entendeur. Thank you.